VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mardi 26 juin 2018. En direct de Washington, Idrissa Seroudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Lancement officiel aujourd'hui du système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, le SIPAO.
À Khartoum, déclaration optimiste du président Salva Kiir et de son rival Riek Machar sur la fin de la guerre civile au Soudan du Sud.
Le FBI va aider Addis Abeba dans son enquête sur l'attaque à la grenade qui a fait 2 morts samedi en Éthiopie.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme signale une nouvelle frappe israélienne contre des dépôts d'armes pour le Hezbollah en Syrie.
Et ne manquez pas notre journal de la Coupe du Monde.
Pour l'instant, l'actualité en Afrique et dans le reste du monde.
16 États d'Afrique de l'Ouest vont se doter d'un système de coopération policière régionale pour lutter contre la criminalité transnationale croissante dans la région. C'est ce qu'ont annoncé lundi à Abidjan des responsables sécuritaires régionaux. Le système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, le SIPAO, plateforme électronique d'échange de données entre les services de sécurité nationaux, qui sera également connecté à Interpol, doit être lancé officiellement mardi dans les 15 États membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et la Mauritanie, au cours d'une réunion de ministres chargés de la sécurité des 16 États.
Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar ont exprimé hier à Khartoum leur espoir de mettre un terme à la guerre civile qui ravage leur pays depuis 2013. Claire Morin-Gibourg.
I came to this conference.
Je suis venu pour mettre immédiatement un terme à cette guerre inutile qui ravage notre pays et j'espère que Riek Machar est prêt à entendre mon point de vue, a déclaré Salva Kiir à l'ouverture de la réunion en présence de messieurs Omar el-Béchir et Yoweri Museveni. Il y a une chance pour la paix et il y a un moyen d'y parvenir, a répondu Monsieur Machar dans un commentaire à la presse. Il s'agit de leur première rencontre dans la capitale soudanaise depuis le déclenchement du conflit au Soudan du Sud. Les deux hommes se sont déjà rencontrés la semaine dernière à Addis Abeba lors d'un sommet régional parrainé par l'Éthiopie, mais qui s'était achevé sans avancée notable. L'ONU leur a donné un ultimatum. Au risque de subir des sanctions, ils ont jusqu'à fin juin pour arriver à un accord politique viable.
En Éthiopie, le FBI va aider les autorités dans leur enquête sur l'attaque à la grenade qui a fait 2 morts samedi au sein d'une foule venue écouter le Premier ministre. Des détails avec Morgan Guiriec.
Le gouvernement américain a dit qu'il va envoyer des experts de la police fédérale américaine pour enquêter, a indiqué la radio-télévision Fana, proche du pouvoir. Un porte-parole de l'ambassade américaine en Éthiopie a confirmé l'information. Lundi, 4 personnes ont inspecté le site de l'explosion avec une voiture de l'ambassade américaine stationnée à quelques mètres de là. L'explosion a eu lieu samedi alors que M. Abiy venait d'achever son discours devant des dizaines de milliers de personnes dans le centre de la capitale. 2 personnes ont été tuées et plus de 150 blessés dans l'explosion et le mouvement de panique. L'attaque n'a pas été revendiquée. Selon Fana, 30 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attaque ont été arrêtées, ainsi que des responsables de la police. Depuis sa prise de fonction en avril, M. Abiy, 42 ans, le premier chef de gouvernement de l'ethnie Oromo, a libéré nombre d'opposants emprisonnés, mis fin à l'état d'urgence, opéré un important remaniement de responsables sécuritaires et a décidé de mettre un point final aux différents frontaliers avec l'Érythrée.
La justice zambienne a ouvert hier le procès de 6 militants anticorruption, dont un célèbre artiste de rap, le musicien Chamaplato Fumba, et ses collègues sont accusés d'avoir perturbé illégalement le débat budgétaire au Parlement pour dénoncer la corruption des autorités. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Les accusés ont été arrêtés en septembre devant le Parlement pour avoir manifesté pendant que le ministre des Finances, Félix Moutati, présentait son projet de loi de finances. Ils dénonçaient une ligne qui prévoyait l'achat de 42 véhicules d'intervention pour les sapeurs-pompiers, au prix à leurs yeux aussi extravagant que suspect d'$1 million par voiture. À l'ouverture du débat lundi, ils ont rejeté les charges de manifestation illégale. Le policier qui a procédé à leur interpellation a indiqué qu'il n'avait pas de lettre les autorisant à assister au débat. Le juge a fixé la prochaine audience au 10 août 2018. À la veille du procès, Amnesty International a exigé du gouvernement l'abandon des poursuites qui, selon l'ONG, servent clairement à faire taire les critiques.
La République démocratique du Congo, un des poumons verts de la planète, est menacée par l'exploitation forestière illégale. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui l'ONG Global Witness, qui demande aux pays importateurs de bois, dont la France, de prendre des mesures. La RDC abrite 60% de la forêt du bassin du Congo, un des derniers poumons de la planète.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le responsable de l'Agence américaine des douanes et de la protection des frontières, Kevin McAleenan, a reconnu hier que les autorités ne sont pas en mesure pour le moment de mettre en œuvre la politique de tolérance zéro de l'administration Trump, politique qui consiste à détenir et à poursuivre en justice quiconque entre illégalement aux États-Unis. Les autorités travaillent maintenant sur une politique qui permettrait les poursuites judiciaires sans séparer les familles.
Un cargo danois transportant 108 migrants, secouru vendredi au large de la Libye, a finalement été autorisé dans la nuit de lundi à mardi à accoster en Sicile. Mais l'incertitude régnait toujours sur le sort de 234 autres migrants à bord du Lifeline, un navire affrété par une ONG. Le Lifeline, affrété par l'ONG allemande du même nom, restait bloqué en mer. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, ayant confirmé lundi sa ligne dure à l'encontre des ONG venant en aide aux migrants. Le point avec Raïssa Girondin.
Ce navire se trouvait lundi en Méditerranée, au large des côtes maltaises, où il attendait une indication sur le port où il pourrait enfin débarquer ses migrants. Nous réaffirmons qu'il sera accueilli dans un port qui ne sera pas italien. C'est ce qu'a déclaré le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, au retour d'une visite éclair à Tripoli en Libye. Parti en guerre contre les ONG dans les migrants au large des côtes libyennes, Matteo Salvini a jugé lundi qu'elles étaient consciemment ou inconsciemment les complices des trafiquants d'êtres humains en Libye. Il a qualifié d'ignorante la ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui avait affirmé plus tôt dans la journée que l'Italie devait prendre en charge le navire humanitaire. Ce navire a ignoré les signalisations des gardes-côtes italiens et libyens. C'est un navire hors la loi qui doit être saisi, a-t-il soutenu.
En série, deux missiles israéliens sont tombés près de l'aéroport de Damas, a rapporté sans autre précision l'agence officielle syrienne Sana. Ces missiles ont atteint, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des dépôts d'armes pour le Hezbollah libanais. La zone de l'aéroport de Damas a été frappée à plusieurs reprises ces dernières années dans des opérations attribuées à Israël. L'État hébreu dénonce de manière virulente l'ancrage de Téhéran chez son voisin syrien.
L'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, reste en déficit de plus de 200 millions de dollars pour finir l'année, malgré des aides supplémentaires venues compenser une baisse de financement américain. Lors d'une conférence de donateurs hier à New York, le président de l'Assemblée générale de l'ONU a averti que les activités humanitaires en Cisjordanie et à Gaza sont en jeu.
La bourse de New York a perdu 1% hier à la fin de la journée et celle de l'Europe encore plus, alors que s'accroissent les craintes d'une guerre commerciale à travers le monde. En citant des considérations sécuritaires, le président Trump a annoncé avoir l'intention d'imposer des tarifs à des produits chinois.
Et à noter que le constructeur emblématique de motos américaine Harley-Davidson a annoncé lundi qu'elle va délocaliser une partie de sa production pour échapper aux tarifs douaniers instaurés par Bruxelles en représailles à ceux de Washington. Monsieur Trump s'est dit surpris et déçu, reprochant à cette compagnie d'être de toutes les entreprises américaines la première, je cite, à agiter le drapeau blanc. Fin de ce journal sur VOA Afrique.
Maintenant, le journal de la Coupe du Monde avec Nicolas Pineau.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Nouveau journal de la Coupe du Monde ce matin sur VOA Afrique. Et des matchs à suspense hier soir dans le groupe B. Il a beaucoup été question d'assistance vidéo à l'arbitrage. Le Maroc tout d'abord a réalisé son meilleur match de la compétition et aurait sans doute mérité mieux qu'un match nul de but partout face à l'Espagne. À Kaliningrad, ce sont les Lions de l'Atlas qui ont ouvert le score sur une grosse erreur de défense qui offre une chance à Khalid Boutaïb de marquer le premier but de la rencontre. Puis Isco égalise dans la foulée sur un magnifique service d'Iniesta. Au retour des vestiaires, l'Espagne domine, mais ce sont bien les Marocains qui prennent le devant grâce à un but sur corner d'En Nesyri.
Hélas, le Maroc ne parvient pas à garder cet avantage. C'est Aspas qui remet les deux équipes à égalité de buts partout. On va écouter l'analyse de cette rencontre et de l'ensemble de la compétition des Marocains avec Mehdi Benatia qui s'exprimait après la rencontre.
Comme le reste de la Coupe du Monde, on a vu une grande équipe, on a vu un grand pays, on a vu beaucoup de bonnes choses. Comme j'ai dit au début, les Marocains peuvent être fiers de cette équipe. Nous, en tout cas, on est fiers de nos fans, de nos supporters. Ils étaient encore une fois, on était à domicile ici. Mais voilà, j'ai pas envie de faire trop de polémiques. On n'a pas envie de. C'est une belle compétition, il faut la respecter. Malheureusement, je pense que notre pays n'a pas été respecté à sa juste valeur durant cette compétition. Et c'est un peu frustrant. Après, l'équipe d'Espagne, elle a des grands champions. On leur souhaite le meilleur, mais ça a été pareil un peu durant toute la Coupe du Monde. On a l'impression qu'on méritait mieux et qu'on n'a pas été très juste avec nous, surtout contre le Portugal. Mais c'est comme ça, il faut positiver et on leur souhaite bonne chance aux équipes qui restent. Et nous, maintenant, il va falloir rester sur la continuité avec ce groupe de qualité, avec un très grand entraîneur, un très très grand entraîneur comme Hervé Renard qui a su depuis le début nous faire qu'on se transcende pour lui. Et chaque joueur aujourd'hui était content de jouer pour lui. C'est vraiment l'homme fort. Donc voilà, c'est lui aussi qu'il faut remercier. Et puis voilà.
Le joueur marocain Mehdi Benatia. L'Espagne termine première du groupe après le match nul un partout du Portugal face à l'Iran. Là aussi, il a été beaucoup question de vidéo. Cristiano Ronaldo qui a notamment raté un penalty. Score final, un but partout entre les deux équipes. Les deux premiers huitièmes de finale sont donc connus. Le Portugal affrontera l'Uruguay et l'Espagne, le pays organisateur, la Russie. En effet, hier, la finale du groupe A entre la Russie et l'Uruguay a tourné à l'avantage de la Céleste qui s'est imposée 3-0. Un but de Suarez, un but de Chérichev contre son camp et en toute fin de match, un but d'Edinson Cavani conclut ce triomphe. L'Uruguay qui termine première de ce groupe, la Russie deuxième et malheureusement, l'Égypte termine dernière derrière l'Arabie Saoudite. En effet, les Pharaons ont ouvert le score sur un joli lob de l'inévitable Mohamed Salah. Al-Faraj a réduit le score en deuxième mi-temps sur pénalty pour les Saoudiens. Et dans les arrêts de jeu, les Saoudiens qui ont été récompensés de leurs efforts grâce à un but d'Al-Dawsari. Le score final, 2-1. Maigre consolation pour l'Égypte, le record d'Essam El Hadary, titulaire dans les buts des Pharaons. Il est devenu le joueur le plus vieux de l'histoire à disputer une Coupe du Monde, 45 ans, 5 mois et 10 jours. À suivre ce mardi la finale du groupe C entre la France et le Danemark, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, qui voudra faire tourner son effectif mais qui veut maintenir la première place du groupe. Il demande à son équipe d'aller chercher une victoire.
Jamais je me verrai dire à mon équipe, on joue pour faire match nul. On va jouer pour gagner. Je pense que le Danemark va débuter le match pour le gagner aussi. Qu'il y ait le résultat nul qui peut convenir aux deux équipes. Peut-être, je suis pas à la place des Danois, mais je veux que mon équipe rentre sur le terrain sans la moindre ambiguïté, c'est faire tout pour gagner ce match.
Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, maigre espoir de qualification pour l'Australie qui doit l'emporter face au Pérou déjà éliminé. Et puis dans le groupe D, la Croatie déjà qualifiée affronte l'Islande et surtout le Nigeria qui pourrait éliminer l'Argentine de Lionel Messi en cas de match nul ou de victoire des Super Eagles. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonjour. Depuis 1990 et la Coupe du Monde en Italie, l'Argentine ne s'était jamais retrouvée dans une situation aussi inconfortable avant le dernier match de poule. Diego Maradona était alors à la baguette et l'équipe autour de lui paraissait aussi pâle que celle qui est en train de bafouiller son football sur les terrains de Russie. Déjà, il a fallu s'arracher pour récupérer la dernière place qualificative dans le groupe éliminatoire unique de la zone Amérique du Sud, où malgré la présence en son sein d'un joueur hors norme comme Lionel Messi, l'Argentine ne s'est qualifiée de justesse que lors de la dernière journée. Ce paradoxe argentin ne date pas d'aujourd'hui. En 1990, Diego Maradona a choisi de jouer tout seul, le reste de l'équipe s'occupant des tâches ingrates mais utiles. Résultat, une Coupe du Monde et une finale pour le pivot de Oro, entré à jamais dans la légende. Lionel Messi, si brillant dans le jeu aéré et en mouvement du FC Barcelone, mais qui terne avec une sélection statique arrêtée sans répartition judicieuse des tâches. Le génie barcelonais, que certains proclamaient déjà meilleur joueur de l'histoire, se trouve donc face à un choix existentiel, devant une équipe du Nigeria qui ne lui fera pas de cadeau. À bientôt.
Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde. Prochain point sur le tournoi demain matin sur VOA Afrique. Et vous retrouvez toutes les dernières infos, les résultats sur notre site internet voaafrique.com ou encore notre page Facebook.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les acteurs de la société civile dénoncent de multiples pressions dont ils font l'objet, selon eux, de la part de la police et des autorités administratives. Certains disent avoir été arrêtés ou interdits de tenir des réunions. De Brazzaville, compte rendu de notre correspondant Arsène Séverin.
Les organisations de la société civile nourrissent des craintes depuis la période post-électorale, redoutant parfois la réduction de leur espace d'expression, un climat qui ne permet pas à certaines ONG de fonctionner normalement. C'est ce que décrit ici Roch Elogunzobo du Cercle pour les droits de l'homme et le développement.
Surtout depuis le référendum, depuis le changement de la constitution, nous sommes en face d'une machine non seulement de répression mais aussi de musulmans. Le gouvernement veut faire taire la société civile avec notamment des interdictions des réunions, même des réunions dans les salles. Et on se retrouve en face des situations où les défenseurs des droits humains, surtout, sont menacés, arrêtés. Ça a commencé avec les syndicalistes de l'université qui ont été arrêtés, certains torturés. Ensuite, nous avons eu des interdictions des réunions, des séminaires à Pointe-Noire.
Arrêtés en début mai, alors que s'ouvrait à Brazzaville le procès du général Mokoko, le coordonnateur national du mouvement, le ras-le-bol Franck Dila Malembe, dit ne pas être diminué par son emprisonnement.
Si les autorités ont voulu que cette maison d'arrêt soit pour nous un lieu où on aurait peut-être abandonné notre combat, non, c'est tout le contraire. Tous les prisonniers étaient avec nous, tous les prisonniers nous ont encouragés à continuer notre combat. Le combat reste le même, ce n'est pas un combat contre une personne, c'est un combat contre un système et le mouvement ras-le-bol continue et continuera à militer pour plus de justice sociale.
Enfin, 2017, une nouvelle loi visant le recadrage des activités des ONG est arrivée au Parlement. Fortuné Megzan Animba, président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, fait son analyse.
De ce que j'ai compris, c'est que les organisations de la société civile qui travaillent plutôt sur les questions de développement pensent que la loi de 1901 n'est plus adaptée aujourd'hui, mais les organisations qui travaillent dans le secteur des droits de l'homme, les organisations militantes, ont plutôt le sentiment, avec raison, que modifier cette loi peut restreindre la liberté d'association.
Les plaintes des ONG ne sont toujours pas comprises par certains juristes qui prêchent le respect de la législation. Trop de liberté tue la liberté, affirme le juriste Christian Bouanga.
Je pense que l'officier de police judiciaire qui procède aux arrestations connaît la loi. Donc une arrestation est une présomption, n'est-ce pas, de la commission par la personne qui en est l'objet d'une infraction. Il n'y a pas de discrédit a priori à jeter sur tout acte posé par l'autorité publique en République du Congo. Non, nous sommes dans un état organisé, il y a des lois que les gens respectent. Alors ceux qui pensent que le Congo est une poubelle, moi je les invite, n'est-ce pas, à prendre une autre nationalité.
Le Premier ministre Clément Mwamba a accepté d'ouvrir une discussion avec ces ONG, notamment dans le cadre du processus ITUE où la contribution de la société civile est toujours très attendue. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour sur le drame de ce week-end dans le centre du Mali où au moins 35 civils peuls ont été tués samedi au cours d'une attaque attribuée à des chasseurs traditionnels à Koumaga. Bagassi Koura a joint Salahina Bokoum, un habitant de Djéné, ville proche du lieu de l'attaque.
Le matin, quand les gens s'apprêtaient même de faire sortir un peu le bétail pour les amener au pâturage.
Parce que c'est un village d'éleveurs.
Voilà, c'est un village d'éleveurs. C'est un village qui est constitué presque à 80-90% peuls. Donc les peuls sont majoritaires là-bas. Tout a commencé le matin. Ce sont les chasseurs, comme on appelle les dozos, qui ont pris l'assaut sur le village. Donc maintenant, à l'entrée du village, ils ont tiré à tout, sur toute personne qu'ils ont rencontrée sur le chemin. Donc maintenant, c'est arrivé au village maintenant. Donc en ce qui concerne les attaques, ce sont les peuls. Même si les peuls sont majoritaires. Il y a ce qu'on appelle les bozos et les bambara, mais ce sont les peuls qui ont été pris pour cible.
Dans le village, il n'y avait pas que des peuls.
Non, il n'y avait pas que des peuls. Il n'y avait pas de... Mais ce sont les peuls qui sont majoritaires. C'est un village où il y a les bambara, il y a des bozos.
Est-ce qu'on savait s'il y avait des problèmes de cohabitation entre ces différentes communautés ethniques?
Bon, tout tout a commencé dans ces derniers mois. Sinon, avant, ce sont des communautés qui cohabitent ensemble, même si des fois, il y a des petites incompréhensions, par exemple, entre éleveurs et cultivateurs. Mais ce sont des incompréhensions qui avaient toujours été résolues dans l'amiable. Mais avec les tournures, compris les événements récemment, donc vraiment, on ne sait plus que faire. Parce que là, ce sont des peuples qui sont toujours pris pour cible. Parce que récemment, avec la tournée du chef de gouvernement, ils avaient quand même décidé de procéder au désarmement des communautés. Mais depuis lors, la situation ne fait que s'empirer. Sinon, au lendemain même de la fête de Ramadan, vers Nantaga, il y a eu des événements similaires comme ça. S'il faut que 10 jours après, Koumaga Toupéré aussi vient de tomber dans les mêmes événements. Finalement, on ne sait plus vraiment quoi dire. Nous vivons dans le qui-vivre ici. Les peuples, quand on est peuple ici, vraiment, c'est très, très difficile.
Alors, est-ce qu'on sent un renfort de forces de sécurité dans la région depuis hier, par exemple?
Oui, parce que quand les événements sont passés, les informations qu'on a fait savoir que les forces de sécurité sont venues pour s'interposer entre les différentes communautés. Mais le plus mal dans tout ça, là, donc, puisque dans le communiqué du gouvernement, on dit qu'il y a eu un accrochage entre les communautés du village. C'est pas comme ça, ça dit, il faut appeler le chat par son nom. Ce sont les chasseurs qui sont venus agresser les peuples du village de Koumaga. Même si ces chasseurs-là ont des complices, mais ils ne viennent pas de Koumaga. C'est ça le problème, au fait. Dans le communiqué, on dit qu'il y a eu un accrochage entre les communautés du même village de Koumaga, alors que tel n'est pas le cas.
C'était Salahina Bokoum, un habitant de Djéné, ville proche du lieu où ont été tués 35 peuls samedi dernier.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kabore, dressant son bilan à mi-mandat, est revenu devant la presse sur les grandes questions de l'heure dans son pays. Les attaques terroristes, la fronde sociale, mais aussi sa candidature à la présidentielle de 2020. De Ouagadougou, compte rendu du correspondant de VOA Afrique, Lamine Traoré.
Le face-à-face entre le président du Faso et les journalistes a duré près de 2 heures. Tout ce qui fait l'actualité au Burkina a été abordé. En matière de lutte contre le terrorisme, le président Kabore a salué l'action des forces de défense et de sécurité burkinabè, qui, selon lui, sont en train de maîtriser la situation.
De mon point de vue, je suis satisfait de l'action de nos forces de défense et de sécurité qui montrent que nous sommes en montée en puissance. Tout est mis en œuvre pour que nous puissions le plus rapidement possible terminer avec, je dirais, le terrorisme, non pas à 100%, de manière à limiter la mobilité de ces forces négatives.
Au niveau des secteurs sociaux, le président Kabore, tout en reconnaissant que les hôpitaux du Burkina sont dans une situation difficile, a fait savoir que de nouveaux centres de santé vont être construits à Ouagadougou et le grand hôpital de la capitale, Yalgado Ouédraogo, sera réhabilité. Par ailleurs, le président du Faso a demandé au syndicat du ministère de l'économie, en grève depuis des mois, de lever leur mot d'ordre de grève. Roch Kabore.
Je voudrais encore demander au syndicat du ministère de l'économie et des finances de lever leur mot d'ordre de grève, de reprendre leurs services de manière à ce que nous puissions engager des discussions.
Dans les milieux de la majorité, la sortie du chef de l'État a été saluée. Laurence Ilboudo est la ministre de la Femme.
Aujourd'hui, il vient avec un nouveau visage et une nouvelle gestion. Et il a présenté très bien sa gestion qu'il veut de ce pays et qui va en droite ligne avec les aspirations de l'insurrection. L'équité, la justice sociale et la démocratie.
Pour Issouf Nana du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, le président est à féliciter.
Le président lui-même se prêtait à l'exercice de redevabilité. Nous ne pouvons que féliciter le chef de l'État, féliciter tous les membres du gouvernement de s'être prêté à cet exercice de redevabilité.
À Ouagadougou, les citoyens apprécient diversement cette sortie du président.
Je l'apprécie parce qu'il a été franc dans l'interview avec les journalistes. Il a répondu les questions comme il se doit sur le fond commun.
On ne retient pas quelque chose de nouveau. Il a juste dit des choses. On sent qu'il avait des annonces à faire. Le président doit revoir sa copie. Le peuple coule dans la misère. C'est la vraie misère dans les quartiers.
Un message qui n'est pas passé inaperçu. Le président Kabore a dit qu'il va travailler à mettre en œuvre son programme pour les 2 années qui lui restent afin de se présenter à la présidentielle de 2020. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Nous vous le disions hier, en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 15 ans, a été réélu dès le premier tour pour un nouveau mandat de 5 ans lors des élections présidentielles et législatives de dimanche. Comment expliquer la victoire de Recep Tayyip Erdogan dès le premier tour Idriss Fall a joint Jean Marcoux, professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble et ancien directeur de l'Observatoire de la vie politique turque à Istanbul.
Malgré tout, Recep Tayyip Erdogan avait déjà gagné dès le premier tour en 2014. Certes, il y a eu un effritement. On avait vu l'année dernière, lors du référendum, deux blocs s'affronter et une victoire du oui qui avait été quand même étroite. Mais il ne faut pas oublier que cette fois-ci, Recep Tayyip Erdogan s'était allié au parti ultranationaliste MHP, que cette alliance lui a permis d'obtenir une majorité plus confortable, même si ce n'est pas non plus un raz-de-marée.
Que signifie pouvoir présidentiel très fort ?
Il n'y aura plus qu'une tête de l'exécutif, en quelque sorte, plus de premier ministre. Simplement le président avec un nombre réduit de ministres et tous les services de l'exécutif regroupés autour du président, qui finalement aura en face de lui peu de contre-pouvoirs, parce que bon, le Parlement est malgré tout acquis à la majorité qu'il a portée au pouvoir. Alors certes, au Parlement, il devra compter avec l'apport des députés du parti ultranationaliste avec lequel il a fait alliance. Le régime étant devenu présidentiel, il n'y aura plus de responsabilité de l'exécutif devant le Parlement. Et d'une certaine manière, il va avoir véritablement les mains libres, je dirais, pour construire définitivement le régime qu'il souhaite construire.
Le régime qu'il souhaite construire, alors que la Turquie était citée comme modèle de laïcité et peut-être même de démocratie dans la région.
Je ne sais pas si la laïcité est véritablement remise en cause, parce que Recep Tayyip Erdogan n'est pas non plus un ultra-islamiste. C'est quelqu'un qui est un conservateur musulman, qui la religion est un moyen finalement de contrôler la société, de développer finalement une vision assez autoritaire et nationaliste. Et je ne pense pas que la laïcité bascule dans une république islamiste. En revanche, je pense que la démocratie, l'état de droit subissent effectivement des atteintes qui sont le propre de ce régime qui est autoritaire.
À l'image de ce qui s'est passé, les purges après cette tentative de putsch en 2016.
Oui, à l'image de ces purges, mais ces purges avaient déjà commencé avant la tentative de coup d'État. La tentative de coup d'État a permis de les accélérer. Et je dirais que ces purges ne sont pas encore totalement terminées, même si le Premier ministre a annoncé la fin de l'état d'urgence.
Jean Marcoux, professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
We'll be right back.
monde aujourd'hui. VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et Dressa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.